Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine, mais à partir des dossiers qui l'ont occupé, qui l'ont passionné. Aujourd'hui, c'est au tour de...
Go! Go!
Et bonjour Marc-André Gagnon.
Bonjour Antoine, bon vendredi fou. Hein?
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, il est à la maison parce qu'il a un peu mal à la gorge.
Oui, malheureusement, j'ai une petite toux. J'ai passé un test COVID hier. Ça s'est bien passé, très rapide d'ailleurs, par gargarisme. Ça fait pas mal pantoute. Puis le résultat a été négatif, mais je voulais pas te donner mes microbes.
Oui, je comprends. Il y a d'autres microbes, on l'a presque oublié. Et justement, on va commencer par parler de vaccination. Tu nous écris ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour les parents pressés, là, ceux qui voudraient devancer la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 pour leur enfant. Mais,
exact.
Mais est-ce qu'il y a un peu d'ombre au tableau?
Ben, en tout cas, il semble y avoir de la friture sur la ligne, puisque, bon, pour te raconter un peu l'histoire, il y a une porte-parole quand même officielle là, du ministère de la Santé qui, en réponse aux questions de notre bureau parlementaire, parce qu'on avait beaucoup de courriels aussi de parents qui se posaient des questions et qui nous a confirmé que si un parent demande un rendez-vous plus rapproché pour la deuxième dose de son enfant, que cette demande-là serait acceptée. Et puis là, je cite la porte-parole, le parent peut aussi aller lui-même sur Clic Santé et devancer le rendez-vous. Donc ça, c'est ce qu'une porte-parole du ministère de la Santé nous avait confirmé.
C'était la bonne nouvelle.
C'était la bonne nouvelle. Pour résumer la situation, le comité d'immunisation du Québec recommande un intervalle minimum de 8 semaines entre les deux doses de vaccin, mais le fabricant du vaccin, lui, suggère donc d'espacer les deux doses d'au moins 3 semaines. Et ça, c'est quand même considéré comme étant l'intervalle minimum requis. Et c'est possible donc d'obtenir une deuxième dose pour son enfant tant que cet espace-là de 3 semaines est respecté. Mais là, donc, mon texte est publié dans le journal ce matin. Il y a des parents pour qui la deuxième dose, 8 semaines plus tard, c'était un enjeu. Je peux te donner des exemples. Un parent d'un jeune hockeyeur qui est né en 2010, donc qui a 11 ans, mais qui veut jouer au tournoi international de hockey Pee-wee de Québec au mois de février. Ben, si la deuxième dose est prévue 8 semaines plus tard, ça nous amène presque aux dates du déroulement du tournoi. Donc, c'était un enjeu de pouvoir devancer la deuxième dose.
Ben oui.
Donc, c'était facilitant pour le parent. Même chose pour le parent qui aimerait planifier un voyage avec un enfant qui est âgé de 11 ans, mais qui aura 12 ans au moment du départ. Ben là, comme la preuve vaccinale est requise pour voyager par avion ou par train au Canada, puis à l'extérieur du pays, c'est un enjeu. Donc, tout ça pour dire que c'était une bonne nouvelle. Mais là, semble-t-il qu'il y a beaucoup de parents qui ont de la difficulté et qui essuient un refus lorsqu'ils essaient de devancer la deuxième dose. Ce qu'on m'explique au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, c'est que la priorité, pour l'instant, elle est vraiment mise sur les premières doses de vaccins qui sont données aux enfants de 5 à 11 ans. Donc, ma compréhension, c'est qu'il y aura des ajustements à apporter là, pour que la directive soit comprise partout à travers le réseau. Là.
Il y a eu une conférence de presse importante mardi dernier. Tu y étais. Est-ce que cette conférence de presse-là visait à faire diversion? Parce que mardi, c'était aussi le dépôt du rapport par la protectrice du citoyen d'un rapport accablant sur les CHSLD, sur la première vague dans les CHSLD?
Ben, c'est clair que c'était une journée très chargée. Je sais que dans l'entourage du premier ministre, on a hésité à choisir le moment de la journée où on ferait cette annonce-là, mais il reste que dans la séquence logique des choses, Santé Canada a donné le feu vert pour le vaccin de Pfizer en dose pédiatrique aux enfants de 5 à 11 ans vendredi. Donc, lundi, on en était encore à finaliser les derniers détails donc de l'opération de vaccination des enfants au Québec. Et finalement, on a décidé de la faire mardi à 17h, aussi en se disant d'abord que la journée serait très chargée avant ça, mais qu'à 17h, il y aurait peut-être davantage de parents à l'écoute lorsque le point de presse aurait lieu. Parce que la collaboration des parents, l'adhésion plutôt, je devrais dire, des parents pour la vaccination des 5 à 11 ans, elle est essentielle. Pourquoi? Ben parce que c'est eux qui doivent donner leur autorisation pour que leur enfant soit vacciné.
Mais est-ce qu'il y avait volonté d'écraser la nouvelle, cette mauvaise nouvelle là, du rapport de la protectrice du citoyen?
Bien, c'est certain que les questions lors du point de presse ont porté surtout sur ce fameux rapport dévastateur. Les gens sont en droit de se demander si c'était pour écraser la nouvelle qu'on a attendue jusqu'à ce moment-là pour faire l'annonce du plan de vaccination pour les 5 à 11 ans. En même temps, le plan de cette campagne de vaccination-là pour les enfants a été très attendu aussi.
Tu as amené le premier ministre quand même à revenir sur une de ses déclarations?
Oui, il nous a fait pratiquement un mea culpa parce que la semaine dernière, François Legault nous disait que si 80 % des enfants de 5 à 11 ans étaient vaccinés, ou plutôt à partir du moment où 80 % de cette clientèle cible-là sera vaccinée, qu'il sera possible d'envisager la levée de la plupart des mesures sanitaires au Québec, y compris de l'urgence sanitaire. Et on peut l'entendre, je lui ai posé la question et il a reculé, il a vraiment abaissé les attentes.
On l'écoute.
Je sais que la semaine passée, là, j'ai dit, c'est sûr que si on vaccine 80% des enfants, là, on va pouvoir enlever les mesures. J'ai dit ça, là, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ce qu'on sait, c'est que les taux de vaccination vont être moins élevés chez les 5-11 ans. Pourquoi? Parce que on a une situation où il y a des parents, avec raison, qui sont inquiets.
Donc, moi, ce que je me demande, par contre, en entendant cet extrait-là, Antoine, c'est est-ce qu'à trop baisser les attentes, est-ce que François Legault est en train, d'une certaine façon, de décourager des parents qui hésitent à faire vacciner leur enfant? Parce que, d'une certaine façon, François Legault aurait pu profiter de ce moment-là pour, justement, vraiment encourager très fortement les parents à aller faire vacciner leur enfant de 5 à 11 ans, parce que là, on sait qu'il y a les festivités du temps des fêtes qui s'en viennent. Ils ont tellement peur de faire trop pression sur les parents qu'ils ont été très, très prudents mardi. Bien hâte de voir quel sera le taux de couverture vaccinale chez les enfants de 5 à 11 ans. Chez les 12 à 17 ans, c'était très élevé. Et là, M. Legault a reculé sur l'espèce d'objectif de 80 % donc, très hâte de voir où on va se situer, là.
Marc-André, tu as deux grands dossiers fétiches. Tu as les traversiers. J'aime beaucoup quand tu écris sur les traversiers. Et le troisième lien, évidemment.
Puis là, on n'a pas parlé du tramway. Mais je touche à tout ce qui touche
Oui, tu es un homme de transport.
Je touche à tous les dossiers, effectivement, qui concernent le transport. Donc, oui, le ministre Bonnardel qui a sorti sa plume cette semaine pour répondre au maire, l'ex-maire maintenant, Régis Labeaume, mais sans le nommer. Il s'est lancé dans une nouvelle tentative de verdissement de son projet de tunnel. Et c'est pas la première fois. Alors, je te raconte. En début de mandat, François Legault avait évoqué l'idée d'enfouir les lignes à haute tension qui passent par-dessus l'île d'Orléans dans le tunnel, parce que le tunnel, à l'époque, il devait passer sous le fleuve, dans le secteur est de Québec, à la pointe de l'île d'Orléans. Et en passant, on parlait déjà d'une première mondiale à cette époque-là, parce que des lignes à haute tension enfouies dans un aussi long tunnel, ça n'existe pas nulle part. Puis là, récemment, il faut dire qu'entre-temps, le projet de tunnel a changé d'endroit. Maintenant, ce qui est projeté, c'est qu'il relie Lévis à Québec, de centre-ville à centre-ville.
Juste pour revenir sur les fils enfouis, là, il y a quand même, entre Grondine et Lotbinière, un troisième lien, c'est-à-dire un tunnel qui est uniquement pour les fils à haute tension, justement pour transporter de l'électricité. Hein? C'est Hydro-Québec qui a construit ça au début des années 90. Alors là, c'était possible d'enfouir des fils à haute tension.
Là, c'était possible, mais c'est pas le même type de câble qui passe sous le fleuve.
Okay.
C'est pas la même capacité. Donc, je me souviens pas du voltage ou du kilovoltage qu'il y a dans les lignes là, qui passent par-dessus l'île d'Orléans, qui traverse le fleuve de façon aérienne.
Mais c'est du gros calibre.
C'est du gros calibre et ça aurait été une première mondiale, mais là, ben évidemment, c'est plus un enjeu de débat puisque le troisième lien ne doit plus passer au même endroit.
Mm.
Donc, plus récemment, Jonathan Julien et François Bonnardel, les deux ministres, dans une entrevue qu'ils nous ont accordée au journal, ben là, ils ont fait valoir que peu de temps après l'inauguration prévue du tunnel, en 2031, ben tout ce qui va circuler dans le tunnel quelques années plus tard sera vert parce que la vente de véhicules électriques sera interdite à compter de 2035. Alors ça, c'était la deuxième tentative de verdissement du troisième lien. Puis là, ben dans sa lettre ouverte cette semaine, le ministre Bonnardel a insisté sur le fait que la construction du troisième lien sera carboneutre. Et là, les partis d'opposition, puis certains chroniqueurs de Montréal n'ont pas tardé à ridiculiser
et même de Québec. Je me suis amusé à me moquer de ça.
J'ai lu ça. la question qu'on s'est posée, c'est combien d'arbres faudra-t-il planter pour rendre sa construction carboneutre? Alors, ne reculant devant rien, c'est ce que notre collègue Geneviève Lajoie a tenté de savoir aux portes du Conseil des ministres, où il faisait très froid d'ailleurs, et on a un extrait sonore.
Combien ça va prendre d'arbres pour compenser la construction du tunnel?
On peut pas identifier puis vous donner, quantifier le nombre d'arbres que ça va prendre pour assurer la carboneutralité, sauf que c'est pas un terme qu'on vient d'inventer pour contrer les oppositions. La carboneutralité, on le fait pour un grand projet à Montréal qui est Turcot. Un projet qui a coûté presque 4 milliards de dollars. Ben c'est ça. Ils sont là.
Ils ont été plantés.
Même chose pour le pont. Il y a la Violette qui va être carboneutre.
Il y en a combien pour Turcot?
J'ai pas les chiffres exacts, mais le projet Turcot qui a coûté près de 4 milliards est carboneutre. Donc, c'est un projet qui est important, celui du tunnel Québec-Lévis, qui va respecter ses règles de carboneutralité. Puis c'est ce qu'on met en place au ministère pour les projets de 100 millions de dollars et plus. Là.
Alors, j'ai fait mes recherches sur ce point-là, mon cher Antoine. J'ai retrouvé dans un communiqué qui est daté d'il y a un an, à peu près le 19 octobre 2020, qui avait été diffusé pour souligner la fin du chantier Turcot. On nous disait que le projet Turcot étant carboneutre, un important effort de verdissement a été réalisé. À terme, ce sont 9000 arbres et 61 000 arbustes vivaces, graminées et plantes grimpantes qui seront plantées. Alors ça, c'est ce qui est prévu pour Turcot. Je ne sais pas si tous ces arbres et arbustes-là ont été plantés, mais ça peut nous donner quand même une idée de ce que ça pourrait représenter pour le troisième lien. Donc forcément, des milliers d'arbres. Tout un défi. Là, il y a une étude qui est en cours pour évaluer les impacts sur l'environnement qu'aura la construction du tunnel de Québec-Lévis, qui, je vous le rappelle, selon ce qui est projeté actuellement, devrait être d'une longueur d'environ 8,3 km. Un monotube avec un diamètre de 19,4 mètres, ce qui en fait le plus gros tunnel au monde jusqu'à présent. Donc, c'est ce qui complexifie la tâche du ministre des Transports, François Bonnardel. Les études sont encore en cours. Il a peu de réponses à nous donner. Et je pense que c'est là qu'est tout le problème dans le dossier du troisième lien. C'est un engagement fort de la coalition Avenir Québec. Et ça fait déjà 3 ans qu'on entend le ministre François Bonnardel nous répéter les réponses, vous les aurez en temps et lieu, les études, vous les verrez en temps et lieu. Mais là, il y a une échéance électorale qui s'amène. On est à un an des élections générales et les opposants au projet de troisième lien se font de plus en plus entendre, parlent de plus en plus fort. Québec solidaire, notamment, qui a enfourché ce cheval de bataille-là, qui s'est lancé dans une campagne de publicité là, sur des panneaux aux abords des routes de Québec en militant donc contre le projet. Le ministre François Bonnardel est condamné à défendre son projet et jusqu'à maintenant, à l'évidence même, il a peu de données à fournir, à nous présenter pour défendre son projet, dont le concept nous a été dévoilé, je vous le rappelle, en mai dernier. Ouais. Et lorsqu'on a eu le ministre en entrevue récemment au journal, on lui a demandé, avant les prochaines élections générales, est-ce que vous allez faire le point sur l'état d'avancement des études? Parce que Véronique Tremblay, sous le gouvernement libéral précédent, qu'on appelait la ministre du troisième lien, donc elle était ministre déléguée au transport, était chargée plus particulièrement de ce dossier-là. Au mois d'août, donc quelques semaines avant le début officiel de la campagne électorale, avait organisé une grande conférence de presse-spectacle à l'Anglicane de Lévis et nous avait présenté donc là où le ministère en était dans la réalisation des études qui étaient en cours. On a demandé à François Bonnardel s'il s'engageait à faire la même chose et il n'a pas voulu aller jusque-là. Mais j'ai l'impression que il n'aura pas le choix. Comme je le disais, il est condamné à défendre son projet et il va devoir travailler plus fort s'il veut éviter de voir les appuis à son projet fondre comme neige au soleil. Parce que de dire ben c'est un projet qui est souhaité par une majorité de la population, c'est peut-être pas suffisant comme argument pour convaincre les gens. Et surtout, Québec solidaire, c'est pas pour rien qu'ils en font un enjeu national. Mmh. C'est que le troisième lien, vu son ampleur, son envergure, devient un projet à intérêt national parce que, ben, on parle d'un budget de 6 à 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et on entend de plus en plus de gens dire, il me semble que c'est de l'argent qu'on pourrait investir sur nos écoles, dans nos soins de santé et tout ça. Le gouvernement nous dit, c'est possible d'investir un peu partout et de continuer à faire des projets routiers. On n'a pas fini d'en entendre parler et on le voit, là, ça divise quand même la population.
Tu dis que le ministre Bonnardel est un peu condamné à défendre son projet. Il va avoir de l'aide, là?
Exactement. Alors, si on potine un peu, tout récemment, en fait, cette semaine, il y a Jean-François Del Torchio, qui est un collaborateur de longue date de la CAQ et de François Legault, qui était jusqu'à tout récemment au cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui vient d'être nommé comme directeur des communications et conseiller stratégique donc au cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel. Dans un mauvais français, on dirait que c'est un peu le fixeur de la CAQ. Donc,
c'est un pompier. Ouais.
Un pompier.
Un pompier des communications.
Exact. Donc, qui a commencé le mandat avec Geneviève Guilbeault, qui est d'aller donner un coup de main à Jean-François Roberge et qui est maintenant au cabinet de François Bonnardel. Et à ça, on ajoute un ancien conseiller politique de Bernard Drainville, qui a déjà été un attaché politique du Parti québécois pour la région de la Capitale-Nationale, Brian Gélina, qui depuis deux mois maintenant est conseiller stratégique et porte-parole officiel du réseau express de la Capitale au ministère des Transports. Alors, des ressources fraîches qui ont été envoyées en soutien au ministre Bonnardel.
Merci beaucoup, Marc-André Gagnon, et prompt rétablissement. Petit mal de gorge, là, il faut que ça finisse, oui. Ça-là.
Merci.
Bonne fin de semaine. Et c'est tout pour La Hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi.